Il est exactement 13h11. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. C'est l'émission On en jase. Je vous le rappelle, un meilleur moyen de nous écouter, blvd.fm. C'est notre web radio, BLVD 102.1. Notre application gratuite, téléchargez-la sur App Store et Google Play Store. Vous avez également la possibilité de nous écouter via votre haut-parleur intelligent en disant « Écoutez BLVD 102.1 ». Abonnez-vous également à notre page YouTube pour nous suivre un peu partout. Pour interagir avec nous, c'est le 418-971-1021. Et à titre de rappel, à la météo, c'est des orages violents pour fin d'après-midi, ce soir. Donc, soyez prudents sur la route. Ça va être une quinzaine de millimètres, mais qui va tomber très, très, très rapidement par secteur. Alors, des vents qui vont être violents. Soyez très, très, très prudents et peut-être que vous, malheureusement, vous allez perdre de l'électricité. Mathias, justement, circulation?
Oui, bien, je veux juste vous rappeler sur avenue Taniata, dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome. C'est présentement en travaux à hauteur de rue Sainte-Hélène, ce qui crée des gros ralentissements là, par choc des deux bords, mais surtout en direction sud. Donc, si vous avez à passer par là, que ce soit ce midi, cet après-midi ou même le matin, c'est un secteur à éviter au cours des prochaines semaines.
Merci beaucoup, Mathias Turcotte. On va rejoindre Rémi Villemur.
On en jase. On en jase. Jase avec Rémi Villemur.
Boulevard 102.1.
Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal, du lundi au jeudi de 18h à 19h et les samedis matins de 8h à 10h avec Jacinthe Varel. Chroniqueur avec nous les mardis et jeudis. Rémi, comment vas-tu?
Je vais très bien, vous deux.
Ça va super bien. Rémi, on va commencer cette chronique en écoutant Paul Saint-Pierre Plamondon qui a réagi ce matin en point de presse concernant le fameux rapport de Oui Québec.
Faisons pas des parallèles, mais ce que je vous dis, c'est que je l'ai lu. On est confiant que ce qu'on présente de manière constante et responsable depuis 5 ans a justement la capacité de rassembler puis d'être parfaitement raisonnable et responsable.
C'est en tout temps. Pour la filière 13, là. Oui.
Je n'ai pas dit ça, je, au contraire, j'ai dit que je l'ai lu.
Vous l'avez lu, il vous dérange pas, là.
Quelle valeur vous accordez au rapport?
Ben, c'est-à-dire que c'est un rapport parmi d'autres, on en prend acte.
Souverainiste, est-ce que vous vous sentez interpellé par ce rapport-là qui s'adresse au mouvement souverainiste?
Mais comme je vous dis, on a été constant, on a une approche qui est responsable et qui rassemble de manière constante. Attendez-vous à ce qu'on continue, là, puis qu'on soit constant, justement. Là. Donc, il va y avoir plein d'interlocuteurs, de rapports, on sait que...
Rémi, maudit PQ avec ses seuils d'immigration puis sa laïcité. Réussiront jamais à faire la souveraineté?
Ouais, ben,
tu comprendras mon sarcasme?
je l'ai saisi tout à fait, mais je pense qu'il y a des gens qui ont oublié cette semaine qu'avant de faire la souveraineté, il faut prendre le pouvoir. Et en ce moment, le Parti québécois, et je dis en ce moment, mais ça fait 2 ans, en fait, ça fait même plus que 2 ans, le Parti québécois est toujours pressenti dans les sondages comme étant le parti qui le prendrait le pouvoir s'il y avait une élection demain matin. Donc, chaque chose en son temps, ça c'est une chose. Deuxièmement, j'ai trouvé, là, j'avais pas entendu la réaction de Paul Saint-Pierre Plamondon jusqu'à présent. Je dois l'interpréter comme ça, là, sur le qui-vive. Puis je la trouve très sage parce que quand il se fait demander s'il va prendre en considération le rapport, il dit pas non.
Exactement.
Hein, il dit pas non. La réponse à donner, c'est oui. Même s'il y a beaucoup de gens au Parti québécois, pour leur avoir parlé, qui trouvent que ce rapport-là n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur parce que quand vous formulez quand vous mettez sur pied un rapport, quand vous rassemblez des données, vous faites appel à une méthodologie. Ça veut dire que vous travaillez d'une certaine façon. Puis de l'aveu même des gens qui sont derrière ce rapport-là, ça ne représente pas la société civile, ce qui est présenté là-dedans. Donc 64% des organismes présélectionnés, dites-vous, présélectionnés, là, vous sélectionnez vous-même des gens. Et vous leur garantissez la confidentialité, donc ils n'ont pas besoin d'être identifiés. Et là, ensuite, vous venez dire 64% de ces gens-là que nous avons sélectionnés, et je précise que nous, c'est Oui Québec, et on est marqué à gauche, très à gauche. Eh bien, 64% des gens à qui nous avons parlé et qui ne seront pas identifiés nous disent que le nationalisme...
Oh, on est en
vous recevez ça, vous dites... parle de qui exactement? On parle de qui exactement? Qui nous dit ça s'ils ne veulent pas prendre la parole? Donc, il est très clément. Je le trouve bon joueur d'aller là où il était. Il n'avait peut-être pas besoin d'aller. C'est-à-dire que là, il dit, ben oui, on va en prendre note. C'est sage de sa part. Après, je note une chose. C'est de ça dont je voulais vous parler. Les souverainistes n'ont pas besoin d'ennemis. Ils ont déjà eux-mêmes. C'est-à-dire,
Exactement. Et ça,
c'est
c'est...
incroyable. Ce modus operandi, ça fait 60 ans que ça dure. Les souverainistes tirent dans leur propre chaloupe. Ce rapport-là, là, si on lui donne un peu de valeur, okay? Mettons qu'on fait ça, là. Mettons qu'on donne ce cadeau-là, qu'on concède ça. Ben, il n'aurait pas dû sortir. Il
En
n'aurait pas dû
effet.
sortir. C'est les Oui Québec qui le mettent sur pied. Les Oui Québec, c'est un organisme qui veut rassembler, mais qui ne parvient jamais à le faire, parce que c'est un organisme qui vient dévorer dans la main des indépendantistes quand ils sont de droite, mais qui tend, eux, jamais la main. Et ça, je le sais pour une expérience très personnelle. Les Oui Québec, leur mission, c'est de promouvoir la souveraineté. Ben, si vous avez un rapport patenté qui laisse croire que ça ne va pas si bien que ça, pourquoi vous en faites la promotion exactement? On attendrait ça de la part des ennemis du camp souverainiste, mais ça vient des alliés.
Imagine. Est-ce qu'on le fait tout simplement par idéologie? Tu l'as dit, Louis-Québec est très à gauche, puis je vais faire un parallèle avec Québec solidaire, qui chicane à savoir c'est qui le meilleur souverainiste avec le PQ, et eux, ils prétendent que c'est eux parce qu'ils vont accueillir tout le monde dans la grande famille?
Ben, c'est à peu près ça. Puis tu vois, le parallèle que tu fais, c'est quand même assez habile de ta part. En fait, il est tout à fait faisable, ce parallèle-là. QS et les Oui Québec, c'est fondé, là. Je veux dire,
C'est ça. C'est la même gang.
c'est assez uni. Là, c'est assez de connivence. Là, il y a beaucoup de gens qui travaillent d'un bord comme de l'autre. Tu sais, on aurait pu ne même pas dire tout ce que j'ai dit depuis 3-4 minutes, puis dire simplement ceci. La préoccupation des Oui Québec, c'est que le nationalisme tel qu'il est défendu par Paul Saint-Pierre Plamondon ne serait pas alléchant pour les gens dits de l'immigration. Ben, j'ai été regarder les chiffres dans les sondages pour le Parti québécois chez les allophones et ils sont supérieurs à ceux de qui? De Québec solidaire. Donc,
Exactement.
enfin, c'est quand même assez drôle d'avoir l'élève en avant qui a les moins bonnes notes de la classe, qui dit au meilleur de la classe, regardez, c'est comme ça qu'on va se rendre, on va finir par résoudre le problème de mathématiques.
C'est ça, exactement. C'est l'élève à 8% d'un sondage qui dit, Hey, tu veux prendre le pouvoir, faudrait que tu m'écoutes. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. Rémi, il y a un gros débat autour de la Révolution tranquille. Est-ce qu'on devrait faire une deuxième Révolution tranquille au Québec? Il y a Joseph Facal, présentement, qui produit une série de textes dans les journaux de Québécois là-dessus. Ce matin, il y avait Antoine Robitaille dans sa chronique hebdomadaire dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, qui disait non, on n'a pas besoin d'une deuxième révolution tranquille. Et il y a d'autres gens qui s'y intéressent, notamment Jean-François Lisée, avec son livre Révolution tranquille au Québec, concernant ce qui s'est fait à l'époque, la coupure qui s'est faite entre René Lévesque et Pierre-Éliott Trudeau. J'ai posé la question ce matin à Jean-François Lisée en entrevue dans Marceau le matin. C'est disponible sur le blvd.fm. Je te laisse entendre sa réponse. Elle est très, mais très intéressante.
Révolution tranquille, le changement qui a eu lieu entre 60 et 66, c'est comme si on changeait de planète, là. C'est-à-dire, le nombre de choses qui ont été changées en quelques années est énorme. Alors, je comprends qu'on dise une autre révolution tranquille parce qu'on a le souvenir de grands changements. Et c'est sûr que le Québec peut faire de grands changements, mais c'est comme si en 60, on avait inventé le feu, OK? Tellement c'était énorme. Alors, on n'invente pas le feu deux fois. Ben, on peut faire des choses, tu sais, mais la révolution tranquille, c'est quelque chose qui ne peut pas se répéter. On ne peut pas faire un bon en avant historique sur le droit des travailleurs, le droit des femmes, inventer la Caisse de dépôt, inventer Hydro-Québec, tout ça en 5 ans, c'est pas quelque chose qu'on fait deux fois dans l'histoire d'un peuple.
Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est une révolution comme on ne verra jamais, juste à prendre toutes les considérations, les actions, la mise en place de grands projets de société qui ont été faits durant la Révolution tranquille. Mais n'empêche, Rémi, que je trouve quand même qu'en 2026, on est dans un tournant. Il faut vraiment revoir notre façon de gérer le Québec et notre façon de faire notre société. Je vais juste prendre, par exemple, les seuils d'immigration. Est-ce que je suis dans le champ, selon toi?
Non, mais un mot d'abord là, sur ce qu'a dit Jean-François Lisée puis ce qu'a écrit Antoine Robitaille dans le Journal de Montréal ce matin. Il y a deux esprits que je respecte vraiment entièrement, là,
Ah,
mais
moi
je ne suis pas
aussi.
d'accord avec eux dans la mesure où, effectivement, tu ne peux pas refaire la Révolution tranquille si le projet, c'est de la refaire comme elle a été faite la première fois. Mais je veux dire, ce n'est pas ça le projet
Non.
qui est présenté par certaines autres personnes. Il y a des gens qui voudraient la faire à l'envers. La Révolution tranquille. Et là, je ne parle que du point de vue de l'État. Donc, je ne parle pas, par exemple, des droits des femmes. Là, c'est un autre point de vue complètement, parce que la Révolution tranquille, c'est plus que la question de l'État. Mais moi, je veux vous parler de la question de l'État. Oui, si l'État a été construit à partir des années 60, effectivement, tu ne peux pas faire une Révolution tranquille pour le rebâtir une deuxième fois. Mais ce que Joseph Facal écrit depuis quelques jours dans le Journal de Montréal, c'est que la deuxième Révolution tranquille, en regardant l'État, ça consisterait à lui imposer un régime minceur. C'est-à-dire
En
que
effet.
jusque dans les années 50, les Canadiens français n'avaient pas d'État. Donc, ils voulaient occuper une plus grande place dans le pouvoir économique, mais ça, c'était une lutte à mener. Et ils se sont donné un État fort avec des programmes sociaux, avec une forte bureaucratie, beaucoup d'emplois ont été développés là-dedans. Et c'était pour assumer le pouvoir des Canadiens français. Ensuite, on a construit la société québécoise, à laquelle s'est mêlée des populations qui sont issues de l'étranger. Bon, bref. Aujourd'hui, ce modèle-là, je pense qu'il est rendu au bout de sa route. On a transformé une société qui était faite de rêveurs, de coureurs des bois. Hein, on vient de là-bas, hein? Je veux dire, on a ça dans notre sang. On était des coureurs des bois, on n'attendait pas après la règle de ci, la règle de ça. Ah oui, il y avait l'Église, mais il faut lire les travaux, les historiens. On les écoutait pas tout le temps, les curés. Mais l'État, par contre, on ne réfléchit qu'à travers son prisme. Un entrepreneur qui veut se partir une business aujourd'hui, son premier réflexe, c'est quoi? Et je ne le plains et je ne le critique pas, soit dit en passant, ça s'est inscrit presque dans sa façon d'être. Il va chercher une subvention. Il va chercher une subvention. Il y a des programmes de développement d'entreprise, des ci, des ça, des ci, subventions, tatati, tatata. Alors, en ce moment, on a qui? On a le ministre, j'ai oublié son nom de famille, mais il disait la semaine dernière qu'il allait payer des entreprises pour engager des jeunes. Je dis, mais attends, mais on vit dans un monde à
C'est
l'envers.
Mathieu
Alors,
Lévesque.
donc, on vit. Moi, ce monde-là, je pense que c'est M. Simard, si
Non,
je
c'est
me rappelle.
Jean-François Simard, c'est vrai. Exactement. On
Ouais.
va payer jusqu'au salaire minimum, jusqu'à
Ouais.
concurrence du salaire minimum à 16,60 pour 50 % du salaire d'un jeune.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État est rendu partout. Et il est rendu nulle part d'une certaine façon. Et il est rendu aussi trop loin, le tout en même temps. Donc, un projet de révolution tranquille, ce serait de donner plus de pouvoir aux individus, de faire en sorte que les
Vraiment.
individus s'émancipent à nouveau, j'ai envie de dire, parce qu'ils se sont émancipés à travers un État québécois, mais là, l'État les a rendus, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, pantouflards, en attente de ça, en attente d'un règlement, en attente de la bureaucratie, en attente. Et ça, ben, ça nous immobilise, ça ne nous fait pas avancer.
Je suis d'accord avec toi. Moi, je le vois sur deux pans, un peu cette deuxième révolution tranquille. Et j'aime bien Dominique Partexo qui nous dit, on pourrait la nommer réflexion tranquille, en effet, parce qu'on réfléchit à refaire réflexion et action, là, parce qu'on veut refaire le modèle. Mais moi, je le vois vraiment, moi, je trouve vraiment que la quête identitaire, la laïcité, les seuils d'immigration, la francisation, nos valeurs, je trouve que ça fait partie de cette révolution-là. Et vraiment, je le vois dans l'exploitation de nos richesses naturelles aussi, parce que si on veut continuer à se doter de programmes sociaux, bien, il va falloir développer de la richesse. Puis si on veut donner davantage de liberté à nos entreprises, il faut développer notre richesse naturelle également. Es-tu d'accord avec ça?
Oui, puis j'invite les gens à porter attention. À chaque fois qu'on parle avec un grand groupe de personnes, là, donc plusieurs points de vue sont entendus, il y a au moins une personne autour de la table qui finit par dire, moi là, j'ai de la misère avec le fait d'être fier d'être québécois. Il me semble qu'on n'a pas fait grand-chose depuis longtemps. Il me semble qu'on est toujours deuxième. Il me semble que c'est long, Québec. Ben, la Révolution tranquille 2.0, ça pourrait s'attaquer à ce sentiment-là qui est en réalité pas juste une impression, c'est fondé sur le réel. Ces gens-là ont raison de dire que ça avance pas au Québec. C'est compliqué de développer des entreprises. Qu'il y a des règles partout, qu'il y a de la bureaucratie, que c'est long, que c'est... Regardez, le 7
Ben
fois...
oui.
Le prix vu dans la transition numérique, c'est quoi ces maudites niaiseries? L'État n'est pas capable de faire son travail.
Je suis très, très, très d'accord avec toi, Rémi Villemur. Hey Rémi, toujours un plaisir de te parler, un bonheur. On se reparle jeudi. Je crois qu'on avait perdu Rémi, alors c'est pas grave, on mettait fin justement à la discussion. Mathias, il se passe beaucoup de choses au niveau circulation à Québec. On parle de l'autoroute Félix-Leclerc qu'on ferait. On parle du pont étagement à Le Bourgneuf. On va parler de radars maintenant qui vont être disponibles. Puis à Lévis, on parle de voies réservées renforcées. Ben OK, on va informer nos gens là-dessus au retour de la pause. Ça te convient?
Yes, sir.
Good. Vous êtes à l'émission d'Angers sur Boulevard 102.1.